Christ. Sabonica. In the New York Groove. Bonsoir et bienvenue dans le Tailgate Podcast Fresh off a Giants win on Thursday night. Qui de mieux pour m'accompagner dans le balado de ce soir que Monsieur Étienne Crotto? J'ai Scalabou dans ma salle à manger.
Une imitation de Cam Scalabou.
Sacrement. Désolé pour les headphone users. Début d'épisode. Yo. On passe en force, les gars. Évidemment, vous savez que la venue de Crotts coïncide également souvent avec un bloc NCA avec la passion. On a plusieurs matchs à venir en fin de semaine prochaine. La cédule est crazy. Alors, on va profiter évidemment de la présence de notre cher ami Crotts pour parler de tout ça. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai le nez un petit peu bouché. Je crois que j'ai des allergies aux victoires. La victoire de la semaine dernière des Giants. On va pouvoir vous en parler dans quelques minutes. Par contre, je n'ai pas oublié le fameux segment. Présente ton breuvage. Alors, Monsieur Crotto, je laisse présenter ta boisson pour la soirée.
Oui, je suis allé avec le breuvage du golfeur, donc la Michelob Ultra. Donc, très bonne en bouche. Je suis allé avec le fameux deal du IGA, 6 grosses cannes pour 16,99. Donc, c'est le breuvage de la journée.
Super, le breuvage du golfeur, je savais pas que c'était a thing, disons. De mon côté, encore une fois cette semaine, à défaut d'y aller dans l'originalité, je suis allé dans un pourcentage d'alcool élevé. Donc je sirote ce soir une maudite de chez Unibrew. Probablement que vous connaissez déjà, 8% d'alcool, une bonne bière double forte ambrée. Et elle sera délicieuse en bouche également.
Pourtant, pas de défaite à oublier.
Mm-hmm. Ça faisait longtemps. Les gars, pour votre information, ça faisait depuis le 24 septembre 2015 contre les Washington Commanders que les Giants de New York avaient gagné un match un jeudi soir. La semaine passée, en finissant le podcast, j'ai justement dit... Donne-moi un miracle, tu sais. Pray for a miracle. Eh bien, c'est arrivé, les gars. Le duo de Jackson Dart et Cam Scalabou qui semble take over the league, and I'm here for it. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses?
Donne du swag aux Giants.
Enfin. Une équipe sans identité depuis plusieurs années, on va se le dire. Scalabou, 3 touchdowns au sol. Jackson Dart qui en a ajouté un également.
Les 3 touchdowns de Scat, 4 verges, 1 verge, 1 verge.
Il comprend exactement son rôle dans cette attaque-là. Un putain de bulldozer. En tout cas, il y a plusieurs nicknames ces temps-ci, honnêtement. Là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'était un méchant malade. Puis Jackson Dart, faisait longtemps qu'on avait eu un carrière qui savait jouer au foot à New York. Puis les gars, laissez-moi vous dire que ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que tu penses de la valeur de Tyrone Tracy en fantasy depuis l'arrivée de Scat, en fait depuis sa blessure?
Ben j'ai hâte de voir quand il va revenir, Tracy. Il était-tu là ce
matin? Oui, il jouait, il était en uniforme.
Ben là, je suis sûr qu'il
était dans un rôle réduit.
C'est sûr, il revenait de sa blessure, mais j'ai l'impression que le 3-down back, tranquillement pas vite, ça va revenir à Tracy. Je pense qu'il est quand même plus explosif que Scat. Mais si t'as une ou deux verges à aller chercher, t'as pas le choix de donner la balle au gros 44.
Le gros 44.
On a vu ce qu'il a fait avec Zach Bond, le meilleur linebacker de la ligue. Okay.
Il a pulvérisé aussi.
Je vois pas dans quel monde tu peux arriver à la ligne début puis redonner la balle à Tracy. Fait que c'est pour ça que je m'attends que probablement justement Scat, son nombre de touchdowns à la fin de l'année, risque d'être plus élevé. Mais en nombre de verges, j'ai l'impression que Tracy risque de refaire probablement un 700-800 verges, un peu comme l'an passé.
Ok, tant que ça, et si ça arrive pour vrai, on est...
Ben,
surtout qu'on n'a pas de recevoir.
L'an passé, il avait fini quoi? Je pense justement à 800 quelques verges. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression que ça va être encore ça cette année. Puis probablement qu'un SCAD va finir, je sais pas, peut-être un 600, 650.
Mais avec les TDX.
Avec, ouais, quasiment peut-être le double du nombre de touchdowns.
Probablement, donc, je serais bien à l'aise de dire ça. Ouais. Du côté des Eagles, ça va faire deux défaites de suite avec cette défaite-là. C'est quand même un peu alarmant, tant qu'à moi.
Ouais.
Surtout pour Saquon, un peu.
Ouais.
Autant pour les fantasy owners que les fans des Eagles, en vrai. Saquon a été votre pilier l'an passé dans votre Super Bowl run. J'ai de la misère à parler à soi, c'est bon. Là, cette année, on n'a pas les mêmes résultats. Par contre, AJ Brown a un petit peu rebondi, mais comme on avait discuté avant de tourner l'épisode, la défense des Eagles a fait comme plus peur à personne. Puis là, c'est sûr que Jalen Carter jouait pas non plus. Ça les aide pas. Mais par contre, de les voir perdre d'une façon quand même convaincante contre les Giants, c'était vraiment pas ce que j'avais sur ma carte de bingo. Quand on était sur le pod la semaine passée avec Nico, j'avais aucun espoir qu'on gagne ce match-là, pour être bien franc. Et j'étais agréablement surpris.
Mais là, eux autres, en plus de perdre Quinion Mitchell, ça pourrait leur faire mal. Je sais pas si finalement c'est une grosse blessure, là, mais.
Carter, c'était. Je pense pas qu'ils vont jouer encore cette semaine.
Mitchell ou Carter?
Ah, Carter. Mais Mitchell aussi.
Ok. Ouais, ça. Parce que tu sais. Leur premier corner, ça tombe à Adoree Jackson, puis pour l'avoir vu
dans les dernières années,
ouais,
au MetLife.
Ouais, vraiment régressif, fait que je suis pas confiant. Cette semaine, je sais pas, je compte qui.
Ils sont pas en bail cette semaine, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Je crois qu'ils jouent contre les Bears cette semaine, laisse-moi vérifier, mais je crois que c'est ça.
Mais non, c'est ça, pour faire du pouce là-dessus, honnêtement.
Ils affrontent les Vikings cette semaine, fait que ça va être un... C'est un bon défi pour leur attaque encore, parce que les Vikings, on connaît leur défense. Puis même les Vikings ont une bonne attaque aussi.
Puis tu sais, je sais pas si c'est notre D-line qui s'est enfin élevé. Ben en fait, oui.
Ouais.
Mais j'ai pas trouvé non plus la ligne offensive des Eagles bien, bien impressionnante.
Surtout pas au niveau qu'on est habitué de les voir dans les dernières années.
Mailata s'est fait dominer d'un bord par Spider. L'autre bord, c'est Kayvon qui a par moment dominé Lane Johnson. Fait que.
Tu rajoutes Abdul dans le mix aussi.
C'est ça.
Abdul ne ramasse pas les sacs cette année, Abdul Carter, pour ceux qui voulaient le voir jouer. Si vous regardez juste ses stats, vous devez dire, ouais, ok.
Il y a beaucoup de pressure par contre.
Et c'est parce que c'est pas pour rien que Brian Burns, le ball, il y a des sacs à tout bout de champ.
Ouais, c'est ça.
Si tu mets de l'attention, c'est partout autour de la ligne, c'est sûr que ça
Même Kayvon aussi, je pense qu'il est rendu à 3,5. Là.
Ouais.
Fait que même lui, il se réveille, t'sais, c'est contract year. Fait que,
c'est ça.
J'en doute un peu, mais. Non, j'ai été impressionné, puis j'ai trouvé que, bon, par moment, c'est sûr que nos DB, on reste faible là, mais il y a quand même des gars qui se sont levés, là, Flotte avec son pick, Belton avec son force fumble. Bon.
Créer des turnovers, enfin.
Ouais.
On n'a pas créé de turnovers de l'année passée.
Non, c'est ça.
C'est comme ça que ça se gagne les football games.
Ouais.
Puis Jackson Dart, à différence que contre les Saints, n'a pas fait de turnover. C'est ça qui gagne des football games. Lui, il est capable de faire ça, mais Daniel Jones, ça marche pas avec les Giants. Fait que, bref, moi aussi, je suis ben heureux. Ça me donne un élan d'optimisme, mais je pense que il faut quand même rester réel.
Oui, ça reste une année de développement. Là. Mais un dernier point que j'ai vraiment aimé, là, c'est notre ligne offensive lui aussi.
Je trouve
que le retour de Thomas, là, ça fait vraiment du bien à tout le monde.
Aucune pression à louer en trois games.
Ouais. Non, c'est ça. Thomas, honnêtement, c'est pas pour rien que quand il est en santé, c'est un des meilleurs de la business.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, le problème, c'est
qu'il faut qu'il reste en field.
C'est ça, exact.
Gotta stay on the field.
Ouais.
Alright, les gars, pour ce qui est des autres games la semaine passée, encore une fois, on était blessés avec M. Didier Orméjuste à 9h30 le dimanche. Malheureusement, ce n'était pas un match aussi enthousiasme que Didier. Quel match, j'ai tendance à dire, vraiment décevant. Surtout du côté des Jets, pour ceux qui sont un peu des binge-watchers de stats, vous avez probablement vu que les Jets ont terminé le match avec moins 10 verges par la passe. Comment veux-tu gagner un match de football de cette façon-là? Et de l'autre côté, les Broncos, eux autres, m'ont vraiment pas convaincu avec 13 points seulement. Surtout leur attaque par la passe qui était vraiment déficiente dans ce match-là, j'ai trouvé. En fait, leur attaque tout court, quand on top receiver, c'est Evan Engram avec 42 verges. C'est un petit peu difficile. Heureusement pour eux, ils s'en tirent quand même avec la victoire et reprennent une fiche de 4-2. Mais pour ce qui était de fantasy-wise dans ce game-là, il n'y a rien. Il s'est rien passé.
Non, moi j'avais Wilson, puis effectivement, je pense qu'il avait 3,6 points. Là.
En plus, lui, Sutton, on les ass all day. J'ai écouté la game au complet. Là. Ouf! Ouf, ouais, c'était pas facile pour M. Garrett Wilson. Et vraiment, un peu décevant pour les partisans qui ont... qui se sont déplacés au Tottenham Stadium en fin de semaine passée. On espère toujours qu'il y a des bons matchs pour le marché européen. Malheureusement, c'était vraiment une game de vidange. La semaine passée, on vous avait dit que le match à regarder cette semaine était le match entre les Jaguars et les Seahawks. Je vais pas être, sans dire que j'ai été déçu, ça n'a pas été les étincelles que je croyais. Par contre, GSN, question. GSN, top 10 dans la ligue.
Oui, oui.
Easy.
Easy.
Top 5, non. Cette année? Cette année,
oui. Actuellement, oui.
Cette année, si on prend juste la saison actuelle, facile.
Overall, ben, en fait, dans la ligue, s'il n'est pas top 5, puis mettons 7e peut-être.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça que j'ai aussi.
Parce que tu sais, il y a quand même le top 4 que je prends dans lui, là, mettons Chase, Jefferson, St. Brown, puis Lamb. Puis après ça, t'as une couple de gars, là, Nakua en santé.
Hey, Nakua, ouais, Nakua aussi, ça, c'est un que, mettons, que tu...
C'est ça, fait que Nakua, mettons, 5, puis après ça, ouais, après ça, mettons, League.
Mais je prends Addison avant League, je pense, en ce moment.
Ben
en ce moment,
hey. Oui, mais, tu sais, faut pas oublier la game de League non plus contre les Cowboys, là, quasiment 200 verges.
Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que là, ça, c'est peut-être que sa blessure influence ma décision.
Un genre de un groupe là où ils sont une couple là
élite là sont comme 7-8 élites là.
Ouais, c'est ça.
Je pense qu'elle fait partie.
Ouais définitivement. Ouais.
Toute une performance encore de sa part, donc vous aurez compris 8 réceptions pour 162 verges et encore un tolly cette semaine.
La bombe de Darnold était épique là.
Ah, ouais, lui il fait bien quand même, ouais. Cette année à Seattle ça paraît dans leur fiche 4-2. Ouais. Ils sont toujours en vie dans la division. Côté de Jacksonville, je m'attendais vraiment à ce qu'il donne un peu plus de position. Travis Etienne a vraiment été invisible. Mais pour les owners de Brian Thomas Jr., un 8-4, 90 verges, un tolly, ça regarde bien pour la suite. Puis ceux qui avaient aussi drafté Travis Hunter en fantasy, par contre, avec des high expectations, ça commence à faire mal.
Ouais.
Ça, honnêtement, je pense que je travaille de l'envoyer ses waivers pour prendre D'Ami Brown.
Ouais, on commence à voir qu'effectivement, jouer deux positions au collège, c'est bien beau, là, être dominant, mais quand tu joues contre des futurs comptables, c'est pas la même game que quand t'arrives le dimanche et que tu joues contre des gars qui se fait 8 ans qui sont dans la ligue.
Exactement. Peut-être qu'encore, on peut dire que ça va être une année d'adaptation toute l'année au complet, mais ouais, c'est ça. J'ai pull the trigger sur lui au draft dans une ligue, puis il n'y a aucun value. Aucun value. Petit clin d'œil sur la game Chargers-Dolphins. On regardait qui allait prendre le contrôle du champ arrière du côté des Chargers avec des nombreuses blessures, notamment à Hampton et Najee Harris. Donc, c'était entre Hassan Haskins et Kimani Vidal. À ne pas confondre avec Kevin Mittal. ça ressemble même pas. Et bien, c'est définitivement que M. Vidal qui a pris possession du backfield avec un share de 18 carries versus 6 pour Haskins. Une grosse performance, donc ceux qui l'avaient ramassé au waiver, vous avez fait le bon choix. Je pense qu'il va être encore utile dans les prochaines semaines. Et dès que Hampton retourne, il perd toute sa valeur, évidemment. Vous connaissez la gig fantasy. Mais pour l'instant, c'est un très bon utility player si vous avez des blessés, surtout. Et Ladd McConkey commence à progressivement reprendre un rôle dans l'attaque. Plus important, en fait, un rôle de numéro 1, donc c'est beau à voir. Du côté des Dolphins, j'ai eu le goût de faire une petite rubrique sur le site, mais on a appris que Jaylen Waddle serait sur le trade block avec leur fiche de 1 et 5. Puis j'aimerais avoir une conversation sur, en ce moment, les wide receivers qui sont sur le marché. Il y en a plusieurs là, qu'on a eu leur nom, là, qu'on voit circuler dans les médias récemment. Juwan Jennings.
Ouais.
Jacoby Myers des Raiders, Jaylen Waddle, Chris Olave. Donc tous des noms que vous devez garder à l'œil d'ici la fin de la saison. Là. Potentiellement même en fantasy, c'est un gars de même qui se fait trader. Je pense, admettons, puis là je voulais pas parler, en fait ça m'amène quasiment à parler du match des Bucks, là, mais les Bucks, ils ont peut-être pas le temps d'attendre que tout le monde revienne au poste de receveur.
Ouais.
Imagine tu ship un Olave là-bas. Là. Avec Baker. Ouh!
Mais pour eux, je pense que ce serait plus un meilleur pour eux. Parce que Olave, c'est un gars qui, si les gars viennent tout en santé, il a besoin de son share du ballon. Tandis que si t'amènes, mettons, un Meyers ou un Jennings, tu sais, ça peut être un bon gars pour patcher pendant un bout. Mais c'est un gars que une fois que Evans et Ebuka vont revenir, Ben, Ibuka, c'est une grosse blessure?
Je pense que ça, c'est pas si c'est moins pire que, okay, que prévu, okay, mais je pense que ça va être au moins quelques semaines.
Ben, tu sais, quand tous ces gars-là vont être en santé avec Godwin, le gars qu'ils vont aller chercher, c'est un gars qui va peut-être recevoir 2-3 ballons par game. Là.
Exactement. Puis de la depth, ils n'ont déjà pas à recevoir. Ça, fait que, tu sais, je disais ça comme un peu hypothétiquement.
Payer le gros prix pour, mettons, un Olave qui te coûterait peut-être un choix de 2 par rapport à payer, mettons, un choix de 4 ou 5 pour un Juwan Jennings ou un Jacoby Meyer, je pense que ça ferait plus de sens pour eux. Là.
Effectivement. Ouais. Je dis ça de même. Dans les autres équipes qui pourraient être intéressées à aller chercher un receveur, je pense à deux équipes dans l'est de l'AFC. Les deux équipes hein, qui... la division va jouer vraisemblablement les Pats et les Bills.
Ouais, effectivement. Les Bills, ça en prend, je pense.
Ouais.
Un peu comme l'an passé quand ils sont allés chercher un Mary Cooper.
Ouais, qui était... Exact. Ouais. Mais j'ai comme un petit peu des doutes que les Dolphins échangeraient dans la même division, là. Mettons qu'on parle d'accord. de Waddle.
Ouais.
Mais par contre, à la veille, à New England, on dirait que j'aime le fit.
Ouais.
Steelers pourraient être intéressés aussi.
Ouais.
Pareillement pour, je pense, les Broncos.
Ouais. Giants aussi.
Effectivement,
Giants,
oui. Avec les blessures, là. Exactement. On a surtout vu Waddle et Giants connectés ensemble ouais. les derniers jours. Là.
Ouais, ouais. C'est un bon fit parce qu'en plus, c'est Dable qui l'a coaché à Alabama. Alabama
ouais. Connaît le kid.
Ouais.
Ça se pourrait, puis sachant que Dable et Shane, les deux ont un job à sauver, je serais quand même pas surpris de les voir mourir.
Ouais, pour, on a quand même beaucoup de picks aussi là, dans les prochaines années. On a fait des échanges dans le passé, fait que. Je serais pas surpris, effectivement, de voir un Waddle débarquer à East Rutherford.
Absolument. La semaine passée, on vous a dit aussi de garder un œil sur un autre match en particulier parce qu'il y avait une petite storyline intéressante. Rico Dowdle Revenge Tour contre les Cowboys. Eh bien, les gars, c'est arrivé. Les Panthers qui battent les Cowboys. Encore une fois, une raison pourquoi la NFC East est ouverte à tous en ce moment. Et Rico Dowdle... Je pense qu'il y a eu 250 verges totales all scrimmage. 183 au sol, 56 par la passe. Crazy.
Ouais.
Crazy. Les Panthers 3-3. Je me disais en début de saison qu'il allait être moins mauvais qu'on pensait.
Ouais, pas un mauvais club.
Non. Puis ouais. J'ai bien aimé aussi ce que j'ai vu de Ted McMillan.
Ouais, ouais.
Deux trades dans Red Zone. Absolument pourquoi on l'a drafté, puis ça fonctionne.
Exactement.
Fait que ça, je trouve ça super. Rico Dowdle, potentiellement le waiver wire of the year en ce moment, ouais. Un league winner. Puis d'ailleurs, merci aux auditeurs, vous avez demandé de nous poser des questions sur Instagram. Puis il y a une question à cet effet-là qu'on va revenir plus en fin d'épisode sur qu'est-ce qui va se passer avec Rico Dowdle dans les prochaines semaines. Donc on va en aller plus en profondeur tantôt. Puis un autre joueur qui performe extrêmement bien, c'est du côté des Cowboys cette fois. C'est George Pickens.
Ouais.
Et puis, on a eu la confirmation juste avant le podcast. Là. Merci à un auditeur que je ne nommerai pas, mais qui m'a fait passer le tuyau que CeeDee Lamb est full go en fin de semaine pour la game without limitation. Mmh. Alors, ce qui m'intrigue, c'est vraiment de voir comment surtout l'utilisation. L'utilisation ouais. de George Pickens, surtout fantasy-wise, hein, voir que ça va donner parce qu'en ce moment il cook vraiment.
Ouais. C'est lui qui a le plus de touchdowns dans la ligue actuellement.
Ouais.
Ouais.
Alors il est super. Même enfin pour Jake Ferguson qui a été très utile la dernière semaine pour vous en fantasy. Je m'attends à des drops des deux côtés. J'ai hâte de voir aussi CD s'il va revenir à cette game comme l'an passé. Sachant que Pickens a le cook, là, mettons.
Ouais.
Fait que ça, c'est un petit peu intéressé, mais starter CD, n'importe quel. J'ai parlé des Bucks brièvement tantôt, mais Baker fait encore quasiment des miracles, je disais. Puis les Bucks, tout simplement, trouvent des façons de gagner. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là. Puis également que le Kendrick Bourne and Mac Jones show is still on. Ça n'a pas rapport. Kendrick Bourne a encore plus de 100 verges par la passe.
142.
Ouais, 142 sur 5 réceptions. Ouais. C'est crazy. Mais par contre, les Niners qui s'inclinent contre les puissants Bucks dans ce match-là. Après ça, on attendait également le retour de Joe Flacco, le retour comme poste de carrière partant. Puis, les gars, je m'attendais vraiment pas à ça, mais Joe Flacco, hein, 45 tentatives de passe la semaine dernière, c'est énorme. Ça me donne quasiment de l'excitation pour ce soir face aux Steelers. Ouais.
Gunne la balle contre une balle, tu sais. Il a vu la tertiaire des Packers, puis il a dit « je vais gunner la balle », puis c'est ce qu'ils ont fait.
Puis c'est, ils sont pas fait humilier dans ce match-là. Ils
semblent avoir une bonne connexion déjà avec Jamar. Fait que ben, je te dirais que j'ai l'impression que n'importe quel carrière pourrait avoir une bonne connexion avec Jamar. Arnaud Desjardins serait capable d'en signer trois d'un match à Jamar.
Arnaud Desjardins, il gagne des passes à Jamar Chase parce qu'il y a Joe Burrow blessé. Mais ouais, pour les owners de Jamar Chase, c'est vraiment une putain de blessing que vous avez eu. Fait que ça, c'est bon signe. Puis évidemment, vous parlez du match qui arrive ce soir des divisions des Bengals. Puis du côté des Packers, ben, il était au top des power rankings en début de saison. Là, on dirait qu'ils me convainquent un petit peu moins cette année. Mais Josh Jacobs marche encore bien. Tant que tu es une running offense, tant... comme l'impression qu'ils ont plus peut-être managé ce game-là, plus qu'autre chose.
Ouais.
À la place de piler ces Bengals pour aucune raison. The Chiefs might be back.
Sans excitation.
The Chiefs might be back. Encore du bon football. Quasiment le goût de dire du bon football, la situation. Puis genre juste. Ouais. Du game management, mais avec leurs weapons qui reviennent.
Ouais.
Et puis on va avoir l'opportunité d'en parler quand on va parler de la game qui s'en vient ce week-end, là, parce qu'on a un retour très attendu du côté des Chiefs, mais une grosse victoire à maison en Sunday night contre les Lions, qui eux deviennent donc 4-2. Je m'aurais peut-être attendu à une fiche un petit peu meilleure à ce moment-ci de la saison des Lions. Mais bon, toujours pas alarmant comme situation.
Ben, je pense qu'on allait s'en attendre là, avec la perte de l'UDO coordinateur.
C'est sûr.
C'est un nouveau système pour les gars aussi. Fait que je suis pas vraiment inquiet. Là. Sur le papier, c'est un des clubs les plus pactés de la ligue. Fait que j'ai pas l'impression que tu risques de rentrer en playoff. Ça va être de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire rendu en janvier.
Exact. Les Bills.
Pas impressionné.
On s'est rendu compte que finalement, ça arrêtait pas peu de donner un peu d'aide à Josh Allen.
Ouais.
C'est bizarre à dire, mais. Il leur manque leur Stephon Diggs.
Ouais, je suis pas impressionné. Puis c'est pour ça que aller chercher un receveur, ça fait encore pas mal plus de sens pour eux autres.
Ouais.
Parce que justement, là,
Josh Allen. Shakir, Coleman, puis Curtis Samuel. Là,
ouais, c'est pas grave.
Ça les mènera pas au Super Bowl, je pense, ça.
Puis l'autre bord, Atlanta, je sais pas si c'est un bon club ou un mauvais club.
Ça, ils sont tellement impossibles à gagner.
Semaine, ils s'en battent les Vikings prime time à Minnesota. La semaine d'après, ils se font rosser 30-0 contre les Panthers. La semaine d'après, ils battent Buffalo. Je sais pas si c'est un bon club, honnêtement.
Ouais. Mais Bijan est un esti de dog.
Ça n'a pas de sens. 170 verges au sol, je pense.
Ouais. 170 verges au sol, puis tu rajoutes un 70 par la porte.
Ouais,
pas mal.
Ouais, son tas de jambes de 81 verges, c'est fou. Là.
Ça, c'était crazy. Puis Drake London aussi, j'avais tellement peur de le drafter à fonction de son ADP, mais hosti que ça paye cette année.
Ouais, il s'est réveillé.
Il est fort. Ouais. Là. On dirait que je le vois, Drake London de USC dans le temps.
Ouais, c'est vraiment réveillé.
The real Drake London. Ils sont un peu un match bizarre, mais j'aime les matchs de même. En lundi soir, ça a été vraiment une bonne game à regarder. Des matchs un peu surprenants de même. Puis il y avait une autre game lundi soir. Encore une autre raison pourquoi la NFC s'est ouverte à tous en ce moment, mais les Bears qui ont battu les Commanders, ça, je m'attendais pas tant à ça, honnêtement. Jalen Daniels qui a quand même bien fait, mais en fin de match, ça a été difficile. Puis Kroski Merritt, ce qu'on regardait, là. C'est quasiment lui qu'on regardait le plus. Mais par la passe, par contre, il va avoir besoin d'aide, lui.
Ouais.
Quand tu lances 3 touchdowns là, dans une game et que t'as pas un receveur qui a 46 verges et plus, c'est tough. Je trouve que c'est une win qui fait quand même mal aux Commanders. J'aurais bien mieux aimé 4-2 que 3-3 en ce moment. Ouais.
Mais Chicago, il va falloir qu'on. Tu sais, parce que ça fait tellement d'années qu'ils sont.
C'est comme si on les catégorise par défaut.
C'est ça, exact.
Les labels as ass.
Actuellement, avec Ben Johnson, ça va vraiment bien les affaires pour vrai. Là.
Ouais. Roma Dunze connaît une bonne saison. Ouais. Il est un petit peu plus tranquille en fin de semaine. C'est plus DeAndre Swift qui s'est illustré. Lui aussi, 170 verges, total scrimmage en fin de semaine. Ça, c'est solide.
Ouais.
Son ADP avait vraiment une bonne valeur cette année. Au draft, pour ceux qui l'ont drafté. Excusez-moi, les gars, c'est les allergies. Fait que c'est ça. Puis tantôt, en parlant des games la semaine prochaine, on aura aussi l'opportunité peut-être de faire un petit outlook sur les divisions en ce moment, là, le classement. On approche la mi-saison lentement mais sûrement. Alors on pourra vous parler de ça. Et oui, c'est l'heure du Dog of the Week. Alors, comme à chaque semaine, mesdames et messieurs, très heureux de vous présenter le Dog of the Week. Monsieur Kato, est-ce que tu es prêt à parler de ton Dog of the Week?
Absolument.
J'ai une petite idée.
Ouais, ben, finalement, j'ai changé. On avait parlé...
J'avais déjà fait ma prédiction.
Mais finalement, je reste dans le Blue Gang. Et je vois avec un gars qui a eu deux sacs du corps, Brian
Spider. Hey, lui, il m'excite en sacrament.
Partout. T'as-tu vu le clip où que, il dit, il fait son premier sac, puis là, un petit peu plus tard dans le game, là, ça va bien les affaires, puis là, je pense que c'est Scat, il dit, ouais, let's go defense, ça nous prend quelque chose. Là. Puis Burns fait juste dire, I got one more in me. Puis il s'en va sacker Hurts, oui, le play d'après.
Mais, oh, lui, il m'allume en sacrement. Quand on a fait le trade pour l'avoir.
Là, on est pas mal en train de parler quasiment Defensive Player of the Year.
Ouais.
Il rentre dans les talks. Là.
Honnêtement, ouais. Il est second pour les sacs derrière le gros Bonito.
Ouais,
mais
c'est
lui
ça.
Aussi, il est lights out cette année.
Ouais,
ouais. D'ailleurs, qui vont s'affronter en fait. Ouais, ça va être beau à voir.
Ouais.
Mais ouais, je suis quand même d'accord.
Parce que là, actuellement, c'est quoi? C'est 7 sacs, je pense?
7 sacs.
7 sacs en 6 games.
6 games, ouais.
Fait qu'il est sur un pace de quoi, 18 et demi, ouais. 19.
Ouais. Quand t'approches le 25, normalement t'es dans le corvo.
Ouais, ouais. Fait que, ouais, mon dog of the week, Brian Burns, encore 2 sacs.
Ah, j'étais tellement prémé, là, je faisais Spider-Man dans le salon devant Nico la semaine passée en écoutant un game. Ça, c'était crazy. De mon côté, mon... je sais pas si la musique a joué en arrière, excusez-moi les gars. De mon côté, mon dog of the week, je vais encore piger chez les Bucks. Monsieur Tez Johnson, c'est un gars qu'on a parlé précédemment dans le Tailgate Podcast l'année passée, surtout ouais. Avec ses performances pour l'Université de l'Oregon durant les playoffs. En fin de semaine, en fin de match, il a dû step-up avec justement toutes les blessures qu'il y avait chez les Bucks. Il a touché, capté un touché de 45 verges, très important en fin de match. Et là, c'est à ce moment-là que la foule s'est mise à s'exclamer de chants de MVP à l'endroit de Baker Mayfield, sauf que Tess Johnson, lui, croyait que les fans le scandaient MVP pour lui. Et il a fallu que M. Sterling Shepard venait le raviser que ce n'était pas pour lui, ce n'était pas à lui que s'adressaient ces chants-là. Donc, Tess Johnson qui a son moment de gloire et qui croyait qu'il était peut-être MVP de la saison pendant quelques secondes. Donc, à cause de ça, M. Tess Johnson, tu es mon dog of the week. M. Croteau, maintenant.
What?
NCAA. Yeah. En fin de semaine, il y a de la match. Il y a du match-up de oulala.
Ouais. Avant.
Ah ouais, on a un petit peu d'actualité ouais, là, ouais, au niveau de NCAA.
Troisième défaite de suite pour Penn State. Drew Allar out for the season. C'est ce qui nous a mené au congédiement de James Franklin, qui était déjà là depuis plusieurs années. Puis son rendement lors des trois derniers matchs n'a pas plu la direction des alumni de Penn State. Donc, ils lui ont montré la porte. Il va quand même toucher, je pense que c'est 25 millions pour les quatre prochaines années. Donc, n'est pas à plaindre. Mais j'ai bien hâte de voir là, qui va émerger au poste d'entraîneur-chef à Penn State. Penn State, comme on parlait avant le show, pas le choix d'être un gros nom. Fait que j'ai hâte de voir. Exactement, ça parle de Matt Rhule.
Qui a coaché les Panthers de Caroline.
Exactement.
Qui a coaché Oregon, on a pensé. C'était Oregon?
C'était pas Oregon, c'était...
Avec Herbert?
C'était Cal. Il était à Cal.
OK.
Donc, il avait fait Cal. Après ça, il s'est rendu en Caroline. Puis là, il est à Nebraska. Donc, peut-être Matt Rhule. Le problème avec Matt Rhule, c'est que essentiellement, tu congédies James Franklin parce qu'il n'est pas capable de battre les équipes classées top 25, mais tu irais chercher un gars qui est encore moins capable de battre les équipes classées top 25. Fait que c'est pas vraiment...
C'est comme de changer une pièce contre 4,25
sous. C'est ça, exact. Fait que j'ai pas l'impression que Matt Rhule, mais actuellement, c'est pas mal le nom qui flotte le plus.
Puis, M. Franklin, tu le vois reprendre du boulot rapidement, j'imagine?
Oui, un fit que j'ai vu pour lui, il y a bien du monde qui parle qu'il pourrait retourner relancer le programme à Michigan State.
Donc, ouh, ça serait frais, ça.
Ouais, parce que Michigan State, depuis une couple d'années, c'est pas
yard, hein? Non.
Mais c'est quand même un programme historiquement qui a eu de l'allure, là. Fait que y a du monde qui parle de Michigan State, mais risque de rester dans le Big Ten. Je pense pas qu'il va s'en aller dans la SEC. Son style de coaching.
Pas dans la NFL.
Je penserais pas à la NFL. Non,
ouais.
Non, parce que tu sais, James Franklin, sa force, ça a toujours été dans le recrutement. Puis NFL, je pense pas que...
Bref, c'est un draft.
Ouais, ça, moi, je le vois vraiment rester dans le Big Ten parce que tu veux pas, Penn State a toujours eu des bonnes défenses. Puis je vois pas en quoi son expertise ferait du sens dans l'SEC. Fait que c'est pour ça que je le vois vraiment rester dans une équipe du Big Ten. Là, mais c'est ça. Michigan State, si j'avais un vieux 2 à mettre. Là,
un vieux 2 à mettre.
Ouais, ouais.
Avec Penn State, eux autres, leur saison est quasiment terminée.
Ouais, je te dirais, c'est pas mal fini. Là, en plus, tu sais, t'as 3 défaites.
Surtout contre qui ils ont perdu.
3 défaites. Le reste, une game contre Ohio State. Le reste, une game contre Indiana. Donc,
ça va être
2 défaites là.
Ça va être très difficile.
Ok, donc pour Penn State, je pense que c'est terminé. Si on regarde cette semaine, j'ai trois match-ups. Là, c'est sûr, vous n'allez pas me trouver original. Là. Vous savez mon amour pour le Southeastern Conference. Donc,
SEC, baby.
J'ai encerclé trois matchs cette semaine dans l'SEC. Donc, premier à midi, les Tigers de LSU qui rendent visite aux Commodores de Vanderbilt.
Vanderbilt qui sont ranked.
Vraiment une bonne équipe de foot, honnêtement. Diego Pavia mène pour les verges par la passe puis pour les verges par la course pour son équipe. Vanderbilt, honnêtement, je sais pas s'ils vont battre LSU. S'ils battent LSU, c'est un autre statement pour le programme, ça. Parce que tu tombes 6-1, tu montrerais probablement dans le top 5 du classement du SEC. Donc,
avec LSU, eux autres, ils trouvent ce game-là, c'est...
LSU se chiche.
Fait mal en sacrifice.
Actuellement, ils sont 10e. Là, ils n'ont pas perdu depuis semaine 1 contre Clemson.
Ouais.
Non, ils avaient battu Clemson. C'est qui contre... Ah, c'est contre Ole Miss qu'ils ont perdu.
Ouais.
Fait que. Non, LSU se cherche un peu, mais ça devrait être une bonne game. LSU est favori à Vanderbilt, mais. Éteignez-vous pas là, si à 3h samedi, là, Vanderbilt.
Sur ESPN Bet, j'ai Vanderbilt moins 2.5.
Favori?
Ouais.
Ah, ouais, ok. Okay. Ouais.
C'est bizarre ça, là, mais ouais. Quand même.
J'aurais pensé que LSU aurait des favoris, mais ok.
Non, ouais, c'est... Ben, en tout cas, c'est ESPN Bet, fait que c'est peut-être que ça varie de Bet365, là, mais j'utilise la référence. Okay. Mais t'as-tu une prédiction?
Je vais y aller. Tu dis quoi? C'est Vanderbilt 2.5?
Ouais, moins 2.5.
Je vais y aller. Vandy. Non, je vais prendre LSU plus 2.5. J'ai l'impression que Vandy, je serais pas surpris que Vandy gagne, mais...
Tight one.
Ouais, peut-être sur genre un field goal en fin de game.
Okay.
Mais ouais, je vais prendre LSU plus 2.5. 3h30 après ça, je transporte à Athens, Georgia pour le choc des titans entre les Rebels de Ole Miss contre les Dogs de Georgia. Numéro 1 dans la SEC, Ole Miss qui s'en va jouer contre numéro 3, University of Georgia. J'ai hâte de voir ça parce que Ole Miss à date, ils n'ont pas été grandement testés. Le plus gros test qu'ils ont eu, ça a été LSU. Sorti vainqueur, mais il était à la maison. Puis Lane Kiffin avait du jus pour ce game-là. Donc, j'ai hâte de voir cette semaine. Ça va jouer à Georgia. C'est une atmosphère quand même électrisante pour leur jeune carrière qui débarque là. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun avec Ole Miss, c'est que c'est une jeune équipe. Puis actuellement, ça marche, les affaires sont 6-0. Exactement. Fait qu'on a beau dire qu'ils ont eu un cupcake schedule, ils sont quand même 6-0 dans l'SEC.
C'est facile de dropper une game NCAA football, on le voit, là, en Penn State. Là.
Ouais, fait que ça devrait être vraiment, là, probablement. Je pense en fait que c'est la meilleure game. Puis justement, College Game Day là, est à Athens cette semaine. Fait que 3h30, samedi, Ole Miss qui s'en vont à Athens, Georgia. Finalement, 7h30, toujours dans l'SEC.
Ça aussi, c'est un nasty de game.
Les Volunteers qui sont à Tuscaloosa, Alabama, pour affronter le Crimson Tide. Vraiment une bonne game. Ça, je me suis pas fait une tête encore là-dessus.
Alabama qui sont favoris par 7.5.
Je dirais que Bama, offensivement, là, c'est vraiment le power. Là. Le power des dernières années revenues. Là. Ty Simpson qui connaît une
Heisman. Saison.
Ouais, vraiment une saison de Heisman. Là. Puis de l'autre bord, là, tu regardes Joey Aguilar aussi qui avait eu un bon début de saison. Ça a été un petit peu plus creux depuis la défaite contre Georgia. T'es-tu capable de me sortir les odds?
Sur Tennessee-Bama? Ouais. Non. Ouais, Tennessee-Bama. J'ai Alabama moins 7.5.
Ok.
Sur ESPN, bien sûr.
Ouais, je pense que je prendrais peut-être Bama moins 7.5.
Moins 7.5, en
ouais. Ouais. Je pense que Tennessee est un bon club. Effectivement, Bama roule sur pas mal tout le monde. Leur victoire à Georgia, là, ça leur a vraiment donné un boost. Puis. C'est pour ça que je pense que là, c'est ça. Par contre, pour Alabama, ça va être à surveiller. Là. Depuis une couple de semaines, Ryan Williams, beaucoup de problèmes de drop.
Je pensais que tu avais dit beaucoup de problèmes de drogue.
mais je sais pas ce qui se passe honnêtement. Là. C'est comme si le fait que maintenant, il y a 18 ans, il est plus capable d'attraper un ballon de football. Là. Fait que ça va être à surveiller, mais de toute façon, même quand lui marche pas, ben ils ont Bernard le receveur. Sinon, ils ont Jam Miller le back. Fait qu'ils sont pas... Sont pas mal pris, là, mais c'est sûr que s'ils pouvaient avoir un petit peu plus d'aide du numéro 17, ça pourrait les aider.
Puis sinon, j'aime bien aussi à 7h30 Notre Dame qui va accueillir ouais. USC. Puis ouais. Même plus en début de journée, je n'haïs pas le match-up aussi, Georgia Tech à 2.
Oui, 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 c'est 1 contre 2. Ben non, c'est pas vrai, c'est Miami, je pense qu'il est 1 dans le ACC, là, mais c'est 2 contre 3. Donc, effectivement, ça va être de voir. Je pense que Duke est favori
par 1.5
contre Georgia Tech. Duke est favori probablement à cause qu'ils sont à maison.
Sur une ligne à 1.5, normalement, ça ferait du sens.
Ouais, c'est ça. Mais... j'ai hâte de voir Mensa, le QB de Duke, adapte une saison lights out. 1800 verges déjà par la passe. 15 touchdowns, 2 interceptions. Puis les défenses de Duke, historiquement, c'est des très bonnes défenses. Donc.
Georgia Tech qui veut, c'est un statement game pour ouais. eux.
Ben même, je regarde ça, je lis le classement du ACC. C'est Georgia Tech qui est premier parce qu'ils ont 3 victoires en conférence. Puis Duke est troisième.
Ça va être un sacré gros match.
Ouais, fait que ça peut avoir des incidents pour le ACC Championship en fin de saison. Là. Malgré que là, on regarde ça vite de même, puis il y a quand même quelques clubs du ACC qui risquent de rentrer, contrairement à l'an passé où on a juste eu Clemson. Donc, ouais, fait que non, des très très bonnes games en fin de semaine, NDU.
Une belle journée pour se parquer devant la TV. Ouais. J'ai pas encore regardé la météo, mais écoute, ça va être le segment météo média, les gars, mais il annonce beau en fin de semaine, malheureusement, samedi, là, donc sortez les enregistreurs si vous voulez regarder des bons matchs de college football. Maintenant, on vous avait demandé de nous poser des questions, comme je l'ai dit en début d'épisode, et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. On a eu plusieurs questions, donc on va prendre le temps de vous répondre. Première question. Comment s'annonce la poursuite de la saison des Ravens après le bye? Et peut-être un petit peu des updates sur les blessures. Eh bien, je me suis fait une petite tête perso sur la situation. Puis Crot, tu me diras si ça fait du sens que j'y. Premièrement, on a eu la confirmation de Harbaugh cette semaine que Lamar Jackson revient officiellement après le bye, qui est cette semaine d'ailleurs. Et je pense qu'on devrait regarder jeter un petit regard à la cédule des Ravens. Ils affronteront encore 2 fois les Bengals, 2 fois les Steelers, les Browns encore une fois, Bears, Dolphins, Vikings, Jets, Pats, Packers. Avec ça. Pourquoi c'est aussi important? Premièrement, je trouve que la cédule est pas that hard, puis que t'as une chance de gagner dans tous ces matchs-là quand Lamar est ton carrière partant. Deuxièmement, j'ai bien dit 2 fois contre les Bengals, 2 fois contre les Steelers. Les Bengals affrontent les Steelers ce soir en Thursday Night Football, et je pense que les Bengals peuvent sauver la saison des Ravens avec une victoire ce soir contre les Steelers. Si les Bengals gagnent, ils se ramènent à 3-4. Et les Steelers 4-2, tandis que les Ravens, oui, toujours à 1-5. Mais s'ils sont capables d'aller chercher les 4 matchs contre ces deux équipes-là, qui vont affronter plus tard dans l'année, Darren, je pense.
Ouais. Mm-hmm.
Darren. Ça repose sur les épaules de un dude seulement. Multiple time MVP, Lamar Jackson.
The Marvelous.
Puis je pense que ça va bien faire aussi pour le monde qui a des joueurs des Ravens en fantasy parce que. Ouh, il y a Zay Flowers qui est comme borderline flex play en ce moment, là, mais ça fait dur. Là. Surtout le gros Rick Henry. Là, que personnellement, j'ai comme keeper dans une ligue, ça fait très mal ça. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de sympathiseurs de Derrick Henry qui écoutent le podcast. Alors, si vous pouvez peut-être lui envoyer un petit DM pour lui dire de se réveiller, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième question du même auditeur. Donc, on a vraiment un auditeur impliqué qui pose des très bonnes questions. On garde l'anonymat pour l'instant jusqu'à son autorisation. Avec le retour de Rice, les Chiefs seraient-ils favoris contre tous les autres clubs de la NFL? Contre tous les autres clubs.
Tous les autres clubs.
Avant la game de dimanche, je t'aurais dit absolument pas. Sauf que là, je me pose la question.
Je pense que oui. Je suis pas sûr qu'ils sont favoris contre Buffalo, par contre.
Ils seraient pas favoris contre Buffalo.
Ben, quand même ça dépend de la game est où. Mettons une game à Buffalo, je pense que Buffalo est favori. Une game à Arrowhead, pas mal sûr que Kansas City est favori. Mais ça, c'est souvent ça, eux autres, quand ils jouent contre des nerfs à nœuds.
Est-ce qu'ils sont favoris contre les Bucks? For sure.
Je suis pas prêt à dire ça, moi. Non, je pense pas qu'ils sont
favoris. Toi qui joues cette semaine, c'est sûr qu'ils sont favoris. Avec Rice, puis contre les Bucks en ce moment, ça recevra.
Ouais, c'est vrai.
Ben, mais c'est ça. Mais ça va varier de semaine en semaine, c'est sûr. Mais honnêtement, je vois pas beaucoup de games dans lesquels ils seront pas favoris.
Jusqu'à la fin de la saison. Contre Détroit, ils étaient favoris. Ils jouent contre Philadelphie, son favori.
C'est...
Je compte Baltimore, son favori.
On peut peut-être même regarder peut-être leur schedule à venir.
Pour je pense quand même un cupcake. Là.
C'est un cupcake, eux autres?
Ouais, il semble que oui. Parce que là, ils ont quand même joué des gros clubs. Ils ont joué Philadelphie. Ben, je pense qu'il leur reste Buffalo à jouer.
Ben, il en reste Buffalo dans deux semaines. Ouais. Interesting, parce qu'on va avoir notre réponse. Parce que d'après moi, c'est le seul club...
Ouais, parce qu'à part de ça, ils ont déjà joué
Ben, en fait, écoute... On aurait dit en début de saison que c'était un cakewalk, là, mais je suis peut-être pas sûr finalement.
Non?
Commis cette semaine.
Ok.
Même pas sont en bail cette semaine. C'est lundi dans deux semaines que les Chiefs vont jouer. Après ça, on a les Bills. Tough game. Après ça, on a un match de division contre les Broncos. Je considère ça comme quand même une tough game.
Ouais.
On a les Colts qui viennent à Arrowhead. On aurait dit normalement que c'est un cupcake en début de saison, mais. Ouais. Pour moi, ça pourrait peut-être être la seule game qui sont pas favoris.
Mm-hmm. Ouais.
Dans les games qui restent, ça pourrait être la seule game qui sont pas favoris. Ouais. Plus que les Bills, je pense.
Ouais. Mm-hmm.
Plus que les Bills en ce moment. C'est sûr que là, pour ceux qui n'ont pas vu, Charavius Ward, le star corner des Colts, s'est fait combo dans le warm-up par un autre qui passait sur le terrain.
Ben, je te dirais, ça va dépendre de ce que les Colts vont nous montrer dans les prochaines semaines encore. Là, pour l'instant, eux autres, c'est un cupcake. Tu sais, à part. Ben là, ils ont battu Denver, mais en réalité, ils n'étaient pas supposés de battre Denver.
Ouais, Denver a perdu plus que Colts a gagné à game.
Puis ils ont perdu contre les Rams. Quoi qu'ils se sont pas fait fendre contre les Rams.
Ouais.
T'sais, c'est une game que ça s'est fini en fin de game. Puis là, si l'autre imbécile ne dira pas le ballon avant de rentrer dans la zone.
C'est ça.
Dans une autre game. Fait que, ouais, non, Andy peut-être.
Ouais. Mais je pense que c'est une très bonne question. Là. C'est, tu vois, le cas, ça prend 5 minutes à répondre, c'est bon signe. Très bonne question, honnêtement. Mais je pense que. Je serais prêt à dire que t'es peut-être deux clubs qui sont les Bills, les Colts, dans leur cédule qui pourraient, contre lesquels ils pourraient pas être favoris. Et maintenant, la troisième question du même auditeur, puis on en a parlé aussi tantôt au début d'épisode. Pensez-vous que Rico Dowdle prendra le poste de RB1 même si Chuba revient bientôt?
Moi, je pense pas. Là. Je pense qu'ils ont donné le bag à Chuba.
Puis... c'est exactement ce que j'allais dire. Tu payes pas un gars 20 millions pour l'asseoir sur le banc, puis c'est juste aussi simple que ça.
Non, c'est ça.
Il y a des touches garantis pour la fin de sa carrière.
Ben, c'est sûr que du moment que Chuba revient, Donald call pas ça sur le waiver pareil. Ils vont continuer à lui donner des touches. Tout,
c'est mais... sûr. Mais je m'attends à un 60-40, ouais, Hubbard 60, Donald 40.
C'est sûr.
Ils payent, ils ont signé 4 ans 33 millions. Avec 16 millions de garanties à Chuba Hubbard.
Ouais.
M'étonnerait bien gros qu'il le cite. Là. On n'est pas dans un cas de Daniel Jones. Non, c'est pas ce niveau-là. Fait que merci beaucoup pour tes questions. On va refaire le segment la semaine prochaine, for sure. Maintenant, monsieur le voyageur Alex Skiman, qui pose une question. Nommez chacun un frontrunner MVP et faites vos arguments. Je vais te laisser aller en premier.
OK. Je trouve qu'il n'y a pas de carrière qui sont devenus à part un, mais je sais que tu as clairement cette carrière-là. Donc, je vais plaider ma cause pour un porteur de ballon. Donc,
Le
porteur de ballon partant des Colts de l'Indianapolis, Jonathan Taylor. Si je peux plaider sa cause un petit peu, il amène les Colts à un tout autre niveau. Je te dirais que je suis pas sûr que Daniel Jones de cette saison-là en ayant un running back average. C'est vraiment Taylor quand tu lui mets la balle dans les mains. Qui transporte cette équipe-là. C'est sûr qu'on pourrait dire qu'il est aidé par sa ligne offensive, mais au final, le carrière aussi est aidé par sa ligne offensive.
Ouais.
Même si, effectivement, je pense qu'au final, le trophée va être remis à un carrière, mais Jonathan Taylor, actuellement, revit, puis comme on parlait tantôt, il y a pas mal l'Offensive Player of the Year.
Si ça continue de même, là, si sa courbe elle crash pas complètement puis qu'il se fait pas un season-ending injury, il y a un sacré lead. Là.
Ouais.
J'aimerais bien ça aller voir la cote, honnêtement, là, parce que c'est crazy. Là. Je vais essayer de trouver ça en ce moment, là, mais on the spot, je suis pas capable de trouver. C'est pas grave, les gars. Parce que moi, je vais vous parler du MVP et je vous réfère à l'épisode 1 de la nouvelle saison du Tailgate Podcast. Eh bien, je viens-tu me jinxer, là? je viens tellement me jinxer, hein? Baker Mayfield, MVP. Tout simplement parce que les Bucks, je pense qu'ils ont peut-être 2 victoires sans lui cette année. Et puis, ça s'aligne parfaitement avec ma prédiction de début de saison que Baker Mayfield sera MVP et que les Bucks ceux qui seront premiers dans la NFC.
On a Jonathan Taylor, regular season award. Offensive, ouais, il est premier à 2,60.
Et Calvaire.
Ouais, puis le plus proche, c'est Bijan à 4,50. Sinon, on a JSN à 5,50. Puis le Puka, ben évidemment, avec sa blessure,
ça va dropper. À
6, là. Mais.
Oh, t'as-tu les MVP proches, ouais, pour être avec. Baker Mayfield, t'as quoi, 1,5
4,50.
Hey,
il est troisième. Deuxième, premier, qui tu penses?
Premier. Pas Jalen Hurts, hein?
Non.
Calice. Jameer Gibbs, Jared Goff?
Non, ben c'est encore ailleurs.
Ah, pas fucking Pat Mahomes.
2,90, Pat Mahomes, puis Josh Allen à 4.
Ça se pourrait encore, ouais. Ce que Pat Mahomes il l'aide.
Un sleeper qu'on n'a pas parlé, mais Drake May qui est à 15.
Ouais, avant le podcast, on l'a comme mentionné. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai. Là.
15, c'est quand même des...
C'est quand même des bonnes odds.
C'est quand même des bons odds.
Tu sais, les Pats, ils gagnent la division.
Mettons que tu mets un 5 dessus. Hein.
Mais les Pats, ils gagnent la division. S'ils gagnent la division, ils peuvent gagner la AFC du coup.
Ouais. Ouais.
Hey, ça serait un nasty turnaround pour les Pats. Ouais. Je fais quand même ear for it. J'aime bien la façon qu'ils sont rebuild. Puis pauvre Titans qui fire leur coach alors qu'il y avait vu. Comment tu l'as ouvert?
Si on dit
tabarnak. Ils fire leur coach. Il y avait Vrabel. Les autres, ils sont tellement innocents. Ça n'a pas rapport. Fait que c'est ça. Ça va être ça. Puis pour la prochaine question, je te laisse juste répondre. Parce que je. N'ai aucune idée, là, je ne suis même pas capable de faire une réponse. Mais la question est une citation que nous devons remplir. With the first overall pick of the 2026 NFL draft, the select. Alors, premièrement, commençons par peut-être prendre un guess sur qui aura le premier choix. Puis il y a quand même un obvious choice présentement.
Mm-hmm.
Les Jets de New York.
Ouais.
Ça s'enligne pas mal pour ça.
Ouais.
Donc. Deuxième step, on identifie leurs besoins. À part dire tout, on peut dire qu'une équipe, ça prend un carrière.
Ouais.
Maintenant, je te laisse répondre à la question.
Ouais, je pense que, effectivement, si on y va avec un carrière, définitivement, le meilleur carrière que j'ai de l'NCA, c'est Fernando Mendoza avec les Hoosiers de l'Indiana. Eux autres, c'est sûr, ça va être encore ailleurs. Puis là, actuellement, des carrières qu'on parlait, Garrett Nuss est bon, mais il n'est pas le lights out. On parlait de Norris Seller, même chose, un petit peu décevant quand même.
Unranked quand même, à
ouais, je te dirais qu'actuellement, les deux là, qui sortent vraiment de tout ça, là, c'est vraiment Mendoza avec Indiana, puis Ty Simpson que avec Alabama. Tantôt, ouais. Peut-être que c'est un Dante Moore qu'il faudrait regarder avec Oregon, mais historiquement, Oregon, c'est des très bons carrières. Collégial, puis ils arrivent dans la NFL, ils sont bons, là, mais c'est souvent, tu sais, ben là, je dis ça, puis il y a Herbert, mettons, qui pète tout, là, puis tu sais, Bonix aussi, mais tu regardes, mettons, Mariota, tu regardes, tu sais, Gabriel, fait que tu sais, c'est pour ça que j'irais peut-être plus avec un better en Mendoza ou Simpson, mais tu sais, Simpson, en même temps, on l'a vu jouer une saison, Mendoza, ça fait 3 ans, là, les deux dernières années, il était à Cal, puis là, cette année, il a transféré à Indiana.
Puis ça marche en Cal.
Ouais,
ça marche leur affaire, là.
1423 par les airs, 17 touchdowns, 2 interceptions.
Ils ont signé leur coach pour 8 ans aujourd'hui. Putain de montant en plus, fait que ouais, ça va bien Indiana avec lui.
Ouais,
c'est des bons signes. Quand t'es capable de turn around un programme de même, ça te donne l'impression que tu vas être capable de turn around une franchise, puis c'est exactement ce que, ouais. Ce que les Jets ont besoin, honnêtement.
Le plus fou, là, ça n'a pas tant rapport, là, mais quand Mendoza va s'en aller l'an prochain, leur prochain QB,
c'est un 5-star.
Alberto Mendoza, c'est le frère.
Le okay. Frère de l'autre. Ils ont le Mendoza Legacy.
Ils ont les deux Mendoza. Ouais, fait que Alberto Mendoza l'an prochain qui devrait
être. Ok, Indiana is the Mendoza crib.
Ouais,
what
the ouais, hell? Ouais. Fait que le petit Mendoza qui est rentré cette année. C'est pour ça d'ailleurs que Fernando a transféré parce que son frère a débarqué cette année. Là, fait que. Ouais, fait que c'est ça, c'est pour ça que je dirais actuellement Fernando Mendoza, mais vous savez que.
On a-tu, tu sais, des fois quand il y a genre quelqu'un de la même famille qui arrive, après on dit, oh, il va être meilleur que l'autre.
Ouais.
T'as-tu un peu de tape ou.
J'ai pas regardé. Ce que je sais par contre, c'est que c'est un 4-star. Fernando, je sais pas, il était combien, mais Alberto, j'ai vu que c'était un 4-star.
Ouais, c'est ça.
Mais je regarde là, Fernando, 6 pieds 5, 2,25. Le plus jeune, il est 6 pieds 2, 2, 3.
Fait que, ouais, peut-être un différent style de carrière.
C'est sûr, ouais, mais non, je trouve ça quand même nice.
C'est un fun fact.
Il va avoir les Mendoza pendant une couple d'années encore à Indiana. Fait que,
wow.
Ouais, ben tu sais, là actuellement on dit ça, là, Jets, Mendoza, mais vous savez que dans le college football, ça change vite. Là, dans le passé à pareille date, on parlait que Shedeur Sanders avait des chances de sortir premier au total, puis finalement.
On a vu ce qui s'est arrivé, ouais, c'est ça.
Exact, c'était... mais c'est quand même le fun de faire cet exercice-là, pareil.
Exactement. Alors, en prévision de la game de ce soir, et plus précisément de la semaine qui s'en vient, on va vous shooter nos predictions. J'ai pas le total en ce moment de comment ça va nos games de prédiction cette année, parce que oui, les gars, même quand les collaborateurs ne sont pas sur les micros pour le podcast, nous comptabilisons nos choix quand même. Malheureusement, c'est le statisticien en chef, un des grands joueurs de décoquer au Québec, U, qui compile les statistiques. Donc, on vous reviendra avec ça certainement au prochain podcast. Je crois que U a bien hâte de faire son retour d'ailleurs. Ce soir, t'as qui?
J'ai Bengals.
Ouais, ça m'a tenté. J'y pensais tantôt, mais j'ai comme l'impression que les Steelers, ça pourrait être une opportunité de,
ouais, ta famille, ouais,
de rouler. Là. Puis la, ouais, leur attaque a comme eu un long départ, là, un peu comme un moteur diesel, mais là, ouais, on dirait, là, puis j'ai goût de dire que les deux running backs des Steelers sont star le ball en fantasy à soir. Warren,
ouais,
et Gainwell.
Ouais, ouais.
32e défense contre la course à Cincinnati au niveau des points fantasy. Donc, je prends les Steelers, moi, de mon côté. Rams, Jaguars, tu connais mon pic, puis je me suis mangé des... en tout cas,
ouais,
on a un pool où on fait des prédictions pour la semaine, pour faire un bet en gang, et puis quand j'ai scandé Jags Moneyline, on m'a reproché, on m'a lancé quelques injures. mais ouais, moi j'ai les Jags Moneyline.
Moi j'ai les Rams cette semaine avec les 4 partisans des Rams qui vont se lever à 6h30 pour regarder la game.
C'est vrai.
C'est à Londres.
Ben les Jags ils jouent tout le temps à Overseas anyway.
Ouais, mais c'est bizarre, c'est tout le temps une équipe de l'Est qui va jouer là-bas.
Ouais.
Parce que justement.
Ah mais c'est ça, ils sont restés à Philly cette semaine. C'est ça?
Ils sont allés à Baltimore parce qu'ils sont allés visiter le Cadman à Baltimore.
Ah, c'est ça, ils étaient à Baltimore puis ils ont resté là pour pas descendre sa côte ouest.
Ouais.
C'est que c'est bon. Panthers Jets, give me Panthers for sure. Puis le spread à 1.5, c'est free tant qu'à moi.
Ouais, j'ai Panthers aussi.
Matchup de division, Chiefs Raiders.
J'ai des Chiefs.
Ouais, parce... bon, c'est ça. Browns contre Dolphins.
J'ai Miami perso, mais je suis pas tant confiant.
Moi aussi, man, Miami.
Je serais pas surpris que Cleveland gagne, mais j'ai Miami.
Ouais, je vais prendre Miami, moi aussi. J'ai quand même aimé leur... Ils ont bien fait la semaine passée contre les Chargers. Une défense qui est quand même décimée présentement par des blessures, mais... Même avec l'absence de Tyreek, je trouve que tout le monde step up. Puis Etienne est encore un putain de fantasy roller. Là. Fait que... Ouais. Je pense qu'il pourrait peut-être en sortir une bonne contre les Browns. Parlant de Mike Vrabel, Titans contre Pats.
Retour. Donne-moi les Pats par mille.
Ouais, donne-moi les Pats par mille de Vrabel qui retourne à Tennessee.
La mère, ça s'est fini.
Nuke the spread. Nuke the spread in a bitch.
Ouais.
Bears Saints. Je pense que. Chicago aussi. Je pense qu'ils continuent sur la bonne lancée. Puis je pense pas que les Saints auront une réponse à l'attaque de Ben Johnson. Tout simplement. Les Vikings qui sont à peine favoris. Les Vikings qui sont
négligés
de 1.5 points contre les Eagles seulement.
J'ai Minnesota.
J'ai goût de dire Minnesota aussi. Est-ce qu'on aura toujours Carson Wentz sur comme quart arrière? JJ McCarthy, est-ce que tu reviens? Update on status. J'ai ça directement, mais c'est sûr que.
Ouais, c'est sûr qu'on est encore un peu loin.
Ouais, il est supposé jouer.
Ah ouais?
Okay. Ouais.
Ouais, j'ai mis de sauter là.
Il serait supposé jouer. Give me Philly, moi. Ah, bounce okay. back. Bounce back, je pense qu'il y a... potentiellement, watch le rushing yards de Saquon, ça pourrait être intéressant cette semaine. Je m'attends... Ouais. Quand une heavy blitz defense, ça se peut qu'il pend de rock là.
Ouais.
Colts Chargers, j'adore le match-up quand même.
Ouais, j'adore ça.
Puis les Chargers sont favoris par 1.5.
De win, Indianapolis.
Ouais, moi aussi, je prends les Colts.
Ouais.
Les Giants qui s'en vont jouer en altitude contre les Broncos.
J'ai malheureusement Denver, mais je serais pas surpris que les Giants gagnent, moi, honnêtement. Puis je trouve que le spread, je pense, genre 8.
7.
Ouais. Je trouve ça bien trop. Moi, je
prends Giants plus 7, mais...
Je prends un spread de New York, mais je pense quand même que Denver va gagner.
Moi aussi, je pense que leur défense va plus être un facteur que la défense des Eagles aurait pu être un facteur
la semaine prochaine. Surtout en altitude en plus. Parce que Kayvon va mourir sur le
terrain. Le gros Dex, là. Le gros Dex va finir sur le respirateur toute la game. Stephen Hawking sur le banc. Cards Packers. Je peux pas prendre les... Hey, j'ai quand même le goût.
Non,
Carter, il...
Ouais, moi, j'ai Green Bay. Puis Marvin Harrison, Como, peut-être, là. Peut-être qu'il va pas jouer. Quoi, quand même, Como dans la NFL, là.
c'est comme une petite sinusite. match-up de division dans la NFCE, justement. Cowboys qui vont accueillir les Commanders.
J'ai Dallas, perso.
Chris, man, on pense pareil. Hein.
Ouais.
J'allais dire Dallas également.
Ouais.
Je vais dire Dallas. Puis Sunday night. J'adore le match-up encore une fois.
Ouais.
Pas en Atlanta, ouais. Je vais prendre des underdogs.
Là, Atlanta, la semaine passée, ont BTA Buffalo. Fait que pour ça, je pense que c'est...
Ah ouais!
C'est une grosse perte contre les Niners.
Ouais. C'est pas fou comme raisonnement. Mais je prends les Falcons pareil. Mais astique, je serais pas surpris que ça arrive.
J'ai jamais vu une équipe aussi inconstante que ça.
C'est crazy. Rien à comprendre. Puis les gars, encore une fois, on a deux games lundi soir.
La première est excitante en Simonac, par contre.
La première, c'est de la pépite. Là.
Simonac.
Je vais prendre des Lions, man.
Moi aussi, j'ai des trois, ouais.
Prendre les Lions.
Je pense qu'ils vont sortir fort après une défaite. Là.
Ouais. Puis Buck, je pense que ça va être une. Bucks plus 5.5, ça m'intéresse.
Ouais.
Je pense que ça va être une game serrée, mais je pense pas que les Bucks vont être capables d'avoir le hit factor peut-être. Ça,
ouais. Avec surtout toute la Détroit, quand même rendu un facteur là-bas.
Ouais, c'est ça. Puis Houston contre Seattle. Surtout que c'est à Seattle. Ouais. Seattle. Donc, Seattle. Alrighty. Et voici nos pics pour cette semaine, les gars. J'espère que vous avez passé un bon moment avec le Tailgate Podcast. Comme à l'habitude, nous autres, on a une petite joute à aller mater. Le duel de CHS.
Le Hank Ball.
Le Hank Ball des deux carrières de 41 ans, les prochains clients de CHSLD au Québec. Aaron Rodgers contre Joe Flacco, c'est ce soir. Bonne soirée, tout le monde, et à la semaine prochaine.
Yeah.